accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Semaine de Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'il y a deux places à gagner pour aller voir PSG Liverpool mercredi au Parc des Princes. Vous envoyez After au 7-32-16. On l'a fait un homme heureux il y a quelques instants. Willem nous a appelé au 32-16 et on lui a offert deux places pour aller voir cette rencontre. Julien Laurent, c'est toujours avec nous. T'es là, Julien?
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que les enfants sont couchés, Julien?
Ah oui, mais le grand. Le
depuis
grand,
tout à l'heure, je sais que ça négocie en coulisses.
Ah oui, oui, oui. C'est le producteur qui m'a qui m'a balancé.
Oui, Arthur Robert t'a balancé, absolument.
Ah
oui,
c'est une balance, on peut dire Arthur Robert.
Okay. Simone Rovera est avec nous également ce soir en col roulé avec sa jolie veste beige. Ça va, Simone?
Ça va, ciao, bonsoir.
Pourquoi le choix du col roulé ce soir, Simone?
Parce que c'est pas beige, c'est gris, c'est quoi?
D'accord.
Oui, c'est gris.
C'est gris?
Pas beige.
D'accord,
ok.
C'est un choix. David Lortolari également est avec nous. Salut David.
Hotline FC Bayern, bonsoir.
Est-ce que tu peux enlever la nappe qu'il y a sur le...
La nappe?
On a ramené le bill, ça prend toute la table.
Ce journal magnifique.
C'est énorme ce truc.
Non mais arrête, on voit plus les caméras là. Voilà, on te voit plus. Tiens, et tout à l'heure, Simone te demandait si tu faisais pas du tremplin acrobatique, c'est ça?
Ouais, non, j'ai demandé s'il n'y avait pas un tremplin acrobatique, un roulant roulé volant, je sais pas.
Nous serons au championnat de France de patinage dans les Alpes dans 3 semaines.
Que tu vas commenter?
Oui, bah bien sûr. Ah. Avec Florent Amoudio.
Comment?
Je ne suis pas les RMC Sport 3, 4.
Non, moi je ne suis pas RMC Sport 3, 4, je suis David Lortolari, c'est pas pareil. Voilà.
Moi.
Messieurs, demain, match de Ligue des Champions entre Lyon et Manchester City. City est leader de son groupe avec 9 points. L'OL est derrière avec 6 points. L'OL qui a 3 points d'avance sur Hoffenheim. En dernier du groupe, on a le Shakhtar avec 2 points. L'OL peut-il...
Shakhtar Donetsk.
Ah, il y a un R?
Donetsk.
Il y a Shakhtar, ouais, c'est R.
Ah, c'est le
KH.
Le KH, mais en russe, en cyrillique.
Tu devrais mettre toi aussi les couleurs comme ça, parce que t'es un roumain. Et donc,
Le Shakhtar, absolument, j'ai un chat dans la gorge. Question, l'OL peut-il refaire le coup de l'aller? La question a été posée aujourd'hui à Bruno Genesio en conférence de presse.
On aura besoin d'être à 150%. On aura besoin de réussite aussi, parce que pour faire un exploit contre ce genre d'équipe, il faut aussi avoir de la réussite. Mais surtout d'être tous à 150% dans tous les domaines. Et puis après le résultat sera ce qu'il est, mais déjà si mon équipe est concernée comme elle l'a été au match aller, on aura notre public, on est chez nous, donc on a tout lieu de réaliser un grand exploit de nouveau.
Et il y croit donc, Bruno Genesio. Julien Laurence lui n'y croit pas. Jingle à vie tranchée.
My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that.
Wow, De Bruyne.
Bon, c'est très bon.
Yeah, like de défense de Pogba.
Voilà, oui. Tout à fait. On aurait bien compris. Alors toi
to
aussi.
Create like De Bruyne.
De Bruyne.
De Bruyne.
De Bruyne. De Bruyne.
C'est comme ça qu'on dit en Angleterre. De Bruyne.
C'est comme ça qu'on dit De Bruyne.
Yes.
Alors l'OL peut-il refaire le coup de l'aller face à Manchester City? Toi aussi t'as un avis très tranché sur la question. Ils peuvent ou ils peuvent pas alors les Lyonnais, mon Julien?
Vous pouvez monter le son au studio?
Pas du tout pour moi, pas du tout. J'ai entendu Bruno Genesio qui disait qu'il fallait qu'ils soient tous à 150%. J'ai peur que même 150% ça suffise pas pour battre cette équipe de City
non,
la première
Julien,
fois.
Pardonne-moi, il a dit à 150% que en plus il y a de la réussite.
Oui, c'est vrai.
Donc
c'est
vrai, raison. Tu vois, c'est, voilà quand même. Il y a beaucoup de choses. Hein.
C'est le doublon, mais même avec le doublon, j'ai peur que ils y arrivent pas pour battre cette équipe de City. Alors je sais qu'il y a eu l'exploit au match aller, en plus à l'Etihad, mais c'était un exploit où je pense vraiment que Manchester City avait approché cette rencontre de manière assez légère, on va dire.
Qu'ils étaient... voilà, c'est la troisième donnée. Voilà. En fait, c'est celle qu'il a oubliée, c'est qu'il faut aussi que Manchester soit pas à son niveau.
Actuel. Exactement.
Vas-y,
c'était le cas. Ils étaient notamment sortis d'un match nul, par exemple, à Wolverhampton, un partout. C'était un début de saison un petit peu lent, on va dire, pour une équipe de Pep Guardiola. Depuis la défaite contre Lyon à l'Etihad, donc au mois de septembre, ils ont gagné 12 matchs. Ils ont fait un match nul, c'était le 0-0 à Liverpool. Ils ont marqué 42 buts, ça fait un peu plus de 3 par match.
Ah ouais.
Ils en ont encaissé 3.
Donc, ah ouais.
3 buts encaissés en 13 matchs. C'est une autre équipe de Manchester City, complètement différente dans l'énergie qu'elle amène, techniquement, tactiquement, même si par exemple Benjamin Mendy sera blessé, donc au niveau de l'arrière gauche, par exemple, il y a un petit souci. C'est pas un arrière gauche de métier, en tout cas, qui jouera demain soir, mais c'est une toute autre équipe dans la mentalité de City que celle que les Lyonnais ont battue au match aller en Angleterre. Et pour moi, c'est vraiment quand tu les vois jouer à West Ham, par exemple, samedi. Où Pep,
victoire 4-0.
Tu dis quand même, oui, c'est victoire 4-0 et Pep te dit à la fin, on a eu un peu de chance, on a eu un peu de réussite, je suis pas très très content. Alors qu'ils auraient pu gagner facilement 6 ou 7. tu dis ah ouais quand même le degré de d'exigence de la part de Pep mais aussi de la part de ses joueurs. Alors demain par exemple, il y a pas De Bruyne, il y a pas Bernardo Silva, il y a pas Gundogan, il y a pas Gabriel Jesus, mais ah, t'as quand même hein. Encore
Julien, bon, je crois aussi que Pep se méfie d'une seule chose, c'est justement un peu d'enflammade. Voilà, il a voilà, peur que ça. De ça.
C'est la complaisance. Ouais.
Ouais. Et de raison. Tomber sur un bloc super bas et qui va faire que
City a des hommes qui même face à un bloc super bas, s'ils sont à leur niveau actuel.
Avec quel genre de compo ils viennent alors? Il y a qui
peuvent faire.
Parce qu'il y a pas mal d'absents.
Ouais. Il y a pas mal d'absents. Alors, t'auras quand même, je pense, devant Leroy Sané, Sterling et Aguero. T'es trois devant. Ouais. T'auras Fernandinho au milieu avec David Silva qui est dans la forme de sa vie. Hein. Je crois que c'est un but toutes les 169 minutes cette saison pour David Silva. Et puis le jeune Phil Foden, je pense, qui est la perle de leur centre de formation, qui a 18 ans, qui est le futur du football anglais, un milieu de terrain créateur gaucher qui est super élégant à voir jouer, qui est vraiment très très bon. C'est un nom vraiment qu'il faut se rappeler, Phil Foden, qui je pense sera titulaire parce que Pep a beaucoup parlé de lui lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui. Et puis après les quatre de derrière, bah t'auras Laporte qui jouera sûrement avec John Stones, Walker à droite et puis à gauche. Faudra voir qui va mettre, sûrement Fabien Delph, l'homme à tout faire un petit peu de cette équipe de City.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement? Est-ce que vous pensez que Lyon peut le faire le même coup qu'à l'aller, finalement? On a quand même vu les stats de Lyon, de City depuis cette défaite, ça c'est impressionnant. Hein. Julien l'a dit, un seul match nul, que des victoires, 42 buts plantés, 3 encaissés, enfin c'est lunaire, quoi.
Bah, c'est du foot, ouais. S'ils sont à 150%, qu'ils ont de la réussite et que Manchester City.
Ça fait beaucoup aussi, quand même. Hein.
Et attends, il y en a un troisième, et que Manchester City ne fait pas le match, le type de match qu'ils font en ce moment, oui, Lyon peut le faire, c'est toujours possible.
Mais tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que Manchester City est a priori, j'ai bien a priori, parce qu'après il faudra le prouver, supérieur à Lyon de par ses individualités ou de par son jeu?
Les deux.
Les deux?
Les deux, ouais. Bah, les deux. Ouais, vraiment les deux. Bah, oui. Le jeu sans ballon, sincèrement.
Oui, ta question, elle t'a
voulu me coincer, mais
non,
mais...
non. Il y a un arrière-pensée.
C'est oui.
Pas
quoi,
c'est quoi normal.
Ouais.
Tu veux arriver.
Ouais, où est-ce que tu veux aller?
Non, attends.
Là, ça fait plus peur. Où est-ce que tu
voulais
aller?
Tu voulais te foutre de la gueule de qui, Daniel?
Oui. Ben, j'arrive.
T'as la chance, t'as le temps de réfléchir du coup là.
Mais pas du tout. C'était prévu, mais je pensais pas que vous alliez vous marrer comme ça, mais j'allais enchaîner.
Non, je vais moins rigoler maintenant.
Non, parce que.
On dirait mon père qui cherche la fin d'une blague qu'il vient d'inventer, je te jure.
Non, pas du tout. Parce que quand j'ai entendu le 11 que vient de citer Julien.
Le City.
Ouais. Dedans, tout compte fait, si tu pars du gardien jusque devant, t'as pas mal de joueurs où tu diras que dans beaucoup de clubs, t'as des mecs supérieurs à eux.
Ouais, mais à Lyon, c'est pour ça que tu parles du collectif, du coup.
Je parle également de Lyon, je suis sûr.
Oui.
Ça n'est pas.
Non, mais
je ne dis pas que c'est
mon
avis.
Oui.
Je dis que le regard que certains peuvent avoir en France, parce que moi j'estime qu'on a des visions déformées ici, il y a beaucoup de gens qui vont dire que Dombélé est supérieur à Fernandinho, par exemple. N'est-ce pas, monsieur Ducrot?
Non, pourquoi tu me dis ça?
La question.
J'ai jamais dit ça de ma vie.
J'ai pas dit que t'avais dit, je te pose la question.
Ah oui, bah non.
Voilà.
Non, bah moi je te dis non. Il est pas encore supérieur. Déjà, pour moi, ils ont pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc.
Prenez en poste à peu près, quoi. Parce que, moi je pense qu'un mec comme Memphis, avec Guardiola et dans Manchester City, il a sa place, à côté de Sterling ou de Leroy Sané.
Je suis pas persuadé. Parce que tu sais très bien.
En qualité?
Tu sais.
En qualité intrinsèque, je vois pas ce que Memphis.
Sauf qu'il n'y a pas que ça, Daniel, et que tu sais très bien qu'avec Pep, c'est aussi énormément d'exigences au quotidien, et que peut-être que ça passe pas.
Ah bah, demande à Agüero, hein.
Moi je te parle de qualité.
Je suis d'accord avec toi,
mais si tu veux comparer, je dis que si Memphis joue avec Guardiola, soit ça rentre dans le truc, soit il dégage. Mais si ça rentre, il vaut largement, pour moi, il vaut Sterling et Sané, en qualité.
On peut
continuer comme ça.
On continuera juste après.
Est-ce que Sterling ressemble à Cornet s'il joue avec Genesio à Lyon?
Est-ce que Sterling? Ah ben non, pas Cornet quand même. N'abuse pas. Non. Non,
ou un autre, je sais pas si mon
frère. L'avenir revient dans quelques instants avec les drôles de dames, avec Pierre Ducrot, Daniel Rilleux, Simone Rovera, Isidore Colari, Julien Laurence et vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio. Et on va continuer de dérouler sur l'Angleterre avec Julien juste après ça. Et Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Simone Rovera est là, David Lortolari également, Julien Laurence bien entendu, il en manque un et il est là, Fred Hermel pour l'Espagne. Bonsoir Fredo.
Hola chicos.
Ça va Alfredo?
Très bien, pas de chauffage depuis deux jours, Le chauffe-eau est cassé, donc voilà.
À Madrid, fin novembre, ça peut être compliqué.
Qu'est-ce qui s'est passé, Fredo? Bah ouais, donc, bah non, mais tu sais, c'est le chauffe-eau, mais enfin, le proprio va le changer, mais je vais être encore deux jours comme ça, donc je suis sous la couette, Angela là-bas, sous la couette, avec un petit chauffe, un petit chauffage électrique, là, tu sais, les petits trucs soufflants que j'ai acheté chez un chinois tout à l'heure.
T'es pas voilà, proprio, toi, Fredo?
Non, moi, je suis un petit salarié, tu sais, donc.
Ça veut rien dire, ça.
Bah non, je suis pas proprio.
Il a même pas de quoi réparer la chaudière.
Ah non, mais s'il est pas proprio, il va pas la payer lui-même.
C'est le, voilà. C'est le proprio qui doit payer parce que bon. Tu sais quand t'es locataire.
Tu vois ça, par exemple ça, Pierre. C'est comme dans le foot. Ça, c'est mentalité française. On va boire un petit café, on va fumer une petite clope, on se fait un petit resto. Et Fred, même s'il avait les moyens et j'en serais ravi pour lui et il gagne bien sa vie, il aurait honte de dire qu'il est propriétaire. Il faut dire qu'on est locataire parce qu'il faut être du côté.
Bah non, mais je suis locataire.
Il faut être du côté pauvre.
Je suis locataire, pas propriétaire.
Mais ça, c'est mentalité.
Je vénère, du coup.
Non, c'est notre mentalité. S'il est en Espagne, Fred.
Moi, je veux pas de.
S'il vit là-bas.
Juste pour abonder le débat.
Il vit là-bas depuis 30 ans.
Il est une connerie à la base.
Mais, mine de rien, il a encore en lui le côté franchouillard. Il faut être un gueux.
Mais attends,
c'est formidable.
Mais non, mais peut-être que.
Au lieu de dire
que Fred est locataire, mais qu'il a, moi, mais qu'il a trois apparts ailleurs dont il est propriétaire.
Moi, je serais ravi d'être propriétaire. Mais en fait, ici, il faudra avoir honte de le dire.
Non,
c'est comme ça.
Mais si,
il faut toujours se cacher. T'as une super belle veste et tout. Tu dis ça à un mec, attends, c'est bon, je l'ai acheté en solde. Hein. Je me tape pas dessus, putain. Ouf là, oh là là.
Putain, je l'ai acheté en solde.
Je l'ai eu en solde. M'en veux pas, je l'ai eu en solde. Putain, m'en veux surtout pas. Mais t'écoutes à la télé tout le temps. Les gens mettent en avant sans arrêt le fait. Non, mais tu sais pas d'où je viens, machin. Toujours, il faut faire ça.
Alors attends, regarde, on va demander à Fred. Fred, est-ce que t'as d'autres appartements que tu loues, dont t'es propriétaire?
Fredo, c'est quoi ce bordel? Pourquoi t'es pas proprio?
Non mais c'est dingue, je vais en Grèce, j'ai pas le droit. Vous souvenez quand même ce débat.
Oui.
J'ai pas le droit d'être locataire. Enfin c'est un truc de malade quoi.
Si t'as le droit d'être locataire, c'est pas vrai.
Sans trop en dire, est-ce que tu es propriétaire d'un appartement quand même?
Bah non, j'ai pas d'appartement.
Aucun. Même pour faire du locatif, pour louer.
Bah non.
Oh là là, merde,
tranquille.
Mais attends,
il a mis tout son argent dans sa voiture.
En Espagne, l'immobilier, à un moment donné, il fallait investir il y a quelques années là. Putain,
il est à Madrid, hein, le mec.
Peu importe, ça coûte cher les
capitaux. Ceux qui investissent dans l'immobilier, ils sont ruinés aujourd'hui. Ouais. Hein.
Mais non, au bon moment, frère.
Les gars.
Mais non.
Voilà, c'est bon, on va fermer la parenthèse. Julien.
Je te jure.
Oui.
T'es propriétaire ou pas, toi?
T'es propriétaire, t'es locataire,
t'es propriétaire ou pas, Julien?
Oui, j'ai acheté une maison.
Ah, voilà, le mec complateur.
En Angleterre, c'est Julien.
Mais pourquoi?
En
Angleterre, voilà. Mentalité anglo-saxonne,
tu dis tout en Angleterre.
Moi, je lui ai pas dit.
Daniel, un commentaire.
Je lui ai pas reproché de le dire ou de le pas dire, Fred. C'est immédiatement, quand tu as posé la question, de dire, non, moi, je suis un petit salarié, moi. Surtout.
C'est du second degré. Enfin.
Mais c'est du second degré qui est devenu un langage commun dans ce pays.
Oui, mais c'est du second degré, là. Il a dit
en mode.
T'as même sans arrêt des stars à la télé qui s'expriment sur les plateaux, des mecs. Tu sais qu'ils gagnent, pas Fred Hermel, ils gagnent pas des millions. Mais tu sais, t'as des mecs, tu les entends dans certains débats, tout le temps, le bal des faux culs absolus. Oh, mais non, mais moi, j'ai pas ceci. Les mecs, ils jouent les pauvres.
Ouais, mais à l'heure où
c'est une hypocrisie.
À l'heure où t'es dégoûté sur Facebook, sur Instagram et à la télé, bah, tu caches, hein.
C'est la radio Brunet à 23h.
C'est intéressant tout ça. Mais Daniel, est-ce que tu peux comprendre une chose? Que moi, par exemple, je pense avoir plutôt bien réussi dans la vie. Et je le dois à mes grands-parents qui étaient des pauvres paysans, à mes parents qui étaient des simples employés. Et moi, grâce à l'école de la République, j'ai pu avoir de faire des études, ainsi que ma sœur, qui a un très bon poste dans une administration importante. Et moi qui.
Mais pourquoi tu racontes ta vie d'un coup? Je n'ai pas compris, en fait.
C'est toi qui me demandes. Et je veux dire, je n'ai pas honte de dire que je vis bien. Oui, mais je ne suis pas propriétaire. Voilà.
Ok, c'est bon.
Tu peux comprendre ça.
Oui, non, mais c'est pas ça que j'ai dit.
Comment on s'en tape, voilà, on arrête.
Immédiatement, c'est une culture. Ouais.
Vous avez parlé de la Julien Liga avant que Fred n'arrive, donc c'est réglé la Liga déjà.
Ouais, toi, le proprio, tu la fermes, ok? Tout le monde sait que t'as un appartement à Versailles, donc voilà.
Et un à Berlin.
Voilà, hein. Effectivement. Julien Laurence, l'affiche de Première Ligue de ce week-end, c'était Tottenham-Chelsea, première défaite de la saison pour les Blues. On va surtout parler d'ailleurs de la victoire de Tottenham, du coup victoire 3-1 face au Chelsea de Sarri. Et il y a un Tottenham-Inter là qui se pointe, ce sera mercredi aussi.
Ouais, tout à fait. Hein. Grosse performance. Ils sont plutôt bons ces dernières années. Tottenham contre Chelsea, ça marche plutôt bien pour Pochettino, que ce soit contre Conte ou là contre Mauricio Sarri. C'est vrai que tactiquement, ils les ont pris à la gorge très vite. Ils avaient bien compris que dès que tu mettais Jorginho sous pression, que tu récupérais le ballon assez haut et que tu te projetais très vite vers l'avant. Et c'est ce que Tottenham a fait, et ce qu'ils ont très très bien fait. C'était plus compliqué après pour Chelsea et ils ont marqué très vite avec Dele Alli et Kane après.
Pourquoi on a eu l'impression au début de la saison que Tottenham ça allait moins bien, ou qu'il y a eu cette mise en route qui a été compliquée, pour les voir finalement maintenant repointer dans le haut du classement et livrer une prestation comme celle de samedi après-midi.
Ça, c'est une très bonne question. Alors, parce que c'est leur meilleur début de saison en première ligue de leur histoire. Ils avaient jamais fait aussi bien que ça. Ils ont eu quand même des performances, on va dire, assez moyennes, contrairement à peut-être à ce qu'on était habitué à voir avec eux. Ils ont eu quelques résultats aussi, peut-être pour leur statut, un peu plus décevant que d'autres. Ils ont perdu des points un peu bêtement. Bon, ils ont été battus par Manchester City et par Liverpool à domicile. Donc c'est vrai que ça, c'est
non, mais il y a cette position aussi en Ligue des Champions où finalement après, ils ont eu des joueurs qualifiés et puis et ça va peut-être être plus compliqué.
L'absence d'Eriksen a beaucoup pesé. Eriksen hyper important.
Ouais, Eriksen, après ils ont
mais je dis pas qu'ils ont mal démarré, je dis il y avait une sensation, une sorte de sentiment que ça démarrait pas super bien, alors que tu corriges en disant que non, en fait tout ça allait bien, quoi.
Ouais, c'est leur meilleur début de saison effectivement de l'histoire de la Première Ligue. Alors je pense que c'est ça, c'est la défaite contre Liverpool, la défaite à Watford aussi, qui à un moment leur a fait un petit peu de mal à ce niveau-là, mais c'est là franchement samedi c'était du très bien, très haut niveau, c'était vraiment très très bien.
Et à l'inverse, est-ce que Sarri, les mecs ont un peu compris comment ça jouait, comme tu disais
Ouais, c'est ça.
Ouais. Comment il est Kanté objectivement depuis le début de la saison avec ce repositionnement, tu le trouves aussi rayonnant qu'avant?
Alors c'est le grand débat en Angleterre depuis samedi sur le positionnement de Kanté qui fait ce qu'il peut, hein. Je pense qu'on peut pas vraiment lui le mettre ses performances sur lui, en fait. C'est plus effectivement cette position, je pense qu'il est un petit peu perdu, jouer entre les lignes pour lui avec le dos au but adverse quasiment souvent, c'est plus compliqué que quand il est face au jeu et qu'il joue plus bas et qu'il récupère le ballon lui-même.
Je voyais moins à l'aise, mais j'étais pas sûr, c'est pour ça que je voulais te demander.
Non, tu as bien raison. C'est bien ça, mais le problème c'est que Sarri
il lui demande d'être plus décisif, notamment dans les 25 derniers mètres, c'est ce qu'il lui a reproché cette semaine.
Oui, mais c'est plus par rapport au fait que Jorginho joue en fait là où Kanté devrait jouer, ou en tout cas il devrait jouer sinon l'un à côté de l'autre, mais dans le 4-3-3 de Chelsea et de Sarri, il n'y a pas la place pour les deux dans la défense. C'est Jorginho et après un peu plus haut Kovacic ou Barclay, et de l'autre côté Kanté. C'est comme ça ou c'est rien d'autre pour Kanté. Donc voilà, ça me dérange, ça dérange beaucoup de gens ici en Angleterre qui disent que Kanté c'est le meilleur milieu défensif au monde, et ben tu le fais jouer là où il est le meilleur, c'est-à-dire devant la défense, peu importe que t'es Jorginho ou pas.
Mais pourtant on disait que c'était pas non plus son poste absolument naturel d'être le mec devant la défense, qui pouvait jouer dans soit un milieu à deux l'un à côté de l'autre, soit même un peu plus haut. On a souvent dit ça, que c'était pas un 6 au sens strict.
C'est vrai, mais dans le milieu à deux, je pense que c'est son poste parfait. Quand tu joues avec quelqu'un qui est à côté de toi, compense quand toi tu montes.
Peut-être un peu plus créateur,
Voilà, ou alors plus créateur, et quand t'es dans ce cas-là, lui sait qu'il récupère le ballon, qu'il donne, et puis après il a fait son taf.
Ouais, ouais.
Là, c'est vrai que ce poste de relayeur numéro 8, et Pierre pourra nous éclairer un peu plus tactiquement, mais de jouer entre les lignes pour Kanté, c'est pas naturel. De jouer dos au but, c'est pas naturel non plus. De recevoir le ballon dos au but et devoir faire son premier contrôle, un contrôle orienté, vers l'avant, ou c'est pas son jeu. Il le fait parfois très bien, et il a été souvent décisif cette saison dans ce rôle-là, mais tu sens que c'est pas naturel chez lui, qu'il est beaucoup plus à l'aise face au jeu, où il peut
même pour défendre, il est beaucoup plus à l'aise quand il a tout face à lui que quand il est effectivement un peu plus
pour intercepter.
Il n'y a pas que avec le ballon,
contact, pour aller prendre la balle,
On n'aura pas le temps d'en parler, mais je vous rappelle que demain United reçoit les Young Boys, les Red Devils, qui ont fait un triste 0-0 contre Palace.
Et Manchester City avec triste dans la même phrase.
Non, United.
United avec triste dans la même phrase.
Ouais, c'est triste.
Non, c'est étonnant ça quand même.
Ouais. Alors juste, je le donne vite fait également. Sachez que Julien avait nommé comme the Cater de la semaine Ranieri, première sur le banc de Fulham, et victoire 3-2 face à Sutton. Et ton bidon, c'était un joueur de Chelsea justement, David Luiz. C'est vrai que c'est certainement le pire match de Chelsea depuis un long moment, Julien.
Ouais. Et David Luiz, mais horrible. Mais quand je dis horrible, il a marché toute la rencontre. Il s'est enfumé par Son sur le troisième but, mais d'une manière ridicule, quoi. Même un poussin, il aurait défendu sur ça. Julien, il fait exprès.
Il défend pas. Il défend pas sur le but. Il fait exprès de se jeter.
Ça me rappelle quelqu'un.
Les gars, on enchaîne avec l'Allemagne. Jingle, l'Ortulari.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré qu'il y a eu une vague, si je puis dire.
Mais c'est quoi ce truc?
C'est énorme ce jingle.
Oh la vanne.
Mais c'est quoi ce bordel?
Ah, il est content.
Ça,
de ta blague,
mais qui a trouvé ça, Arthur?
En plus, on sent qu'il a improvisé la vanne.
Et puis qu'il kiffe.
Et il s'est rendu compte et il s'est dit, putain, je suis trop bon dans ma blague.
C'est vraiment fait rire, quoi.
Et alors, hommage.
Bravo, Paul.
Hommage aux gars en régie parce que ça date de ce soir, les gars. C'est un Facebook live de ce soir.
Oh putain, les mecs sont réactifs.
Mais sur quoi t'as fait?
Grosse réactivité, une petite interview.
Oh, pour...
Mais sur quoi? Sur la natation de quoi?
Bah entre autres, oui, parce que je traite de plusieurs sports, Daniel, pas uniquement du foot allemand.
Natation.
Oui, natation.
Là, comme tu fais des trucs particuliers.
Le creux de la vague, etc.
Non, mais il y a un berger allemand dans la piscine.
Synchronisé.
C'est la natation.
Ah d'accord, ok.
Du tremplin synchronisé, comme disait l'autre. Putain, les génies. Oui, vas-y, remets-le.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré qu'il y a eu une vague, si je puis dire.
C'est honteux de faire ça. Ah, magnifique. Ah non, qu'il est. Oh pardon. Oh la vache. Bon, on passe à la Bundesliga.
Ah, sublime.
Le Bayern leader avec 4 points d'avance sur Gladbach. Non, non, on va y revenir.
C'est pas le Bayern, c'est Dortmund.
Ah, le Dortmund, pardon. Oh putain, j'ai peur à mon album. Oui. Le Dortmund qui a battu Mayence ce week-end 2-1. Le Bayern qui est 5e. Bien loin d'ailleurs de Dortmund. Alors, crise ou pas au Bayern qui va affronter le Benfica mercredi.
Crise ou pas.
Non, mais ça y est, on y est.
On
y est. Parce que quand le Bayern perd contre Dortmund il y a peu là 3-2 ce n'est pas comparable avec ce qui s'est passé ce week-end où le Bayern contre un promu relégable assez faible mène 2-0 puis 3-1 puis se fait reprendre à 3-3 dans les arrêts de jeu. Certes, il y a un joueur en face qui a brillé, qui a fait un triplé, mais tu parlais à l'instant Pierre d'un joueur avec David Luiz qui ne défendait pas. Moi, je vous avouerai que j'ai eu un soupçon, c'est plus qu'un soupçon parce que maintenant c'est un trou béant. Quand Jérôme Boateng, ce week-end, contre Düsseldorf, contre un joueur totalement inconnu, vient les bras ballants pour défendre à 2 mètres, sans s'engager, sans faire les gestes d'un défenseur champion du monde qu'il est, tu te dis il y a un problème au Bayern, tu te dis c'est plus possible et il faut forcément agir, c'est la crise. Il y a eu des escalations dans cette crise. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, cette conférence de presse surréaliste où les deux présidents viennent pour défendre l'institution Bayern. Première étape. Deuxième étape, Uli Hoeneß qui défend son entraîneur en disant « je le défendrai jusqu'à la mort ». Troisième étape, Uli Hoeneß qui défend un peu ses joueurs, qui défend un peu aussi, encore une fois, le terrain. Ce week-end, la rupture a été consommée. Uli Hoeneß a sous-entendu en disant que Kovac serait présent pour le match de Benfica et qu'on n'en sait pas plus derrière, a sous-entendu qu'il abandonnait son entraîneur et que le destin de celui-ci, Niko Kovac, qui réussit le pire début de saison du club depuis 1991.
Ah ouais, quand même.
Moi, malheureusement, j'ai l'impression que c'était un peu couru avant cette affaire.
Alors le problème, tu parlais de crise, évidemment qu'il y a crise, parce que là, le fusible un peu facile, ça va être Kovac.
Mais en fait,
qui a le pire bilan depuis Klinsmann, et encore c'est même pire que ce que Klinsmann avait fait.
C'est l'effectif et les joueurs offensifs.
Bah, vieillissant, enfin, il y a beaucoup. On a l'impression qu'ils ont du mal à se renouveler quand même. Hein.
Évidemment.
Il y a ça, et tu t'apprêtes sans doute dans la semaine, scénario probable, à faire sortir Kovac pour faire venir un nouvel entraîneur. On ne sait pas encore lequel, on peut en discuter si on veut ce soir.
On parle de Wenger et de Zidane notamment.
Alors voilà, Arsène Wenger présente.
En cours de route.
Ah, Zidane, on en a parlé avec Fred Hermel aussi.
Alors ouais. Fredo, t'y crois toi ou pas?
Ah non, mais pas du tout. Et j'ai eu l'occasion de prendre une eau avec Zizou il n'y a pas longtemps. Parce qu'on n'a pas pris d'un verre, on a pris une eau, on a bu de l'eau. Il est vraiment bien en année sabbatique, là. Il est tranquille, quoi. Donc il ne reprendra pas de clubs durant la saison, ça c'est évident.
Julien Wenger, t'y crois ou pas?
Est-ce que la piste Laurent Blanc a été évoquée?
Non.
C'est là, Julien, ou pas?
Oui, je suis là, bien sûr.
Tu crois à Wenger ou pas, toi, au Bayern, là, en cours de route, comme ça?
Je suis un peu sceptique, mais pourquoi pas, hein. Mais au moins il parle la langue.
Wenger, il a envie de bosser.
Voilà, exactement. Il y a la langue, comme le dit Julien.
Wenger, il a peur d'être sur la
fin. Mais Wenger, il aime bien avoir la main sur les choses. Au Bayern, c'est compliqué quand même.
Là, il a peur d'être sur la fin.
Il y a 20 ans, alors c'est 20 ans en arrière, certes, mais il y a 20 ans, quand Wenger s'engage pour Arsenal, il avait été contacté, il avait discuté aussi déjà avec le Bayern, et le contact n'a jamais été rompu.
Oui, exactement. Et surtout, ce qui est apprécié, ce qui est apprécié par les dirigeants du Bayern, c'est que c'est l'un des entraîneurs, contrairement à d'autres qui sont cités, comme par exemple Hasenhüttl, qui est un bon entraîneur allemand qui est disponible en ce moment. Lui a l'avantage d'avoir déjà maîtrisé des stars, d'avoir déjà maîtrisé Özil, d'avoir déjà maîtrisé toutes les stars qu'on a pu connaître pendant 20 ans à Arsenal. Ça, c'est un avantage qui va plaire immédiatement
aux dirigeants du Bayern. Les vieux. Ça rassure.
69 ans, Arsène.
Ils étaient ravis de reprendre Heynckes, tout ça.
Qui l'a, je vous le dis tout de suite, on va bâcher l'affaire Heynckes tout de suite.
Possible ou pas?
Il a 72 ans, mais non, il est à la retraite dans sa ferme.
Fou, Scolari vient d'être champion à 70 ans,
Heynckes,
en Brésil.
Tu rigoles quoi? Il a déjà préparé le costume de Père Noël, il est dans son chalet.
Exactement.
Tu veux dire que le Bayern lâche Heynckes?
Oui, c'est Heynckes qui a lâché le Bayern.
C'est bien, c'est pas mal.
Ça passe, non?
C'est pas mal.
Franchement, ça passe. Tiens, juste petite parenthèse sur le Bayern avant que tu nous fasses ton avis tranché sur Gladbach. Alors j'ai vu ça, à la demande des supporters, le Bayern va retirer le bleu de ses équipements domicile à partir de la saison prochaine. Alors, pourtant, moi, je t'avoue, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, j'ai souvenir d'avoir vu du bleu depuis, 20 ans sur le maillot du Bayern.
Absolument, absolument. Il y a même eu une très mauvaise année, c'était au début des années 90 où ils avaient une dominante de bleu avant que Albert n'arrive, de mémoire. C'était vraiment... Mais en fait, c'est très simple. Là, première chose, le Bayern a demandé à ses supporters à écouter l'avis de ceux-ci pour les couleurs du maillot à venir. Et deuxièmement, c'est très simple, Munich 1860 est en bleu, le FC Bayern est en rouge. Certes, les couleurs de la région du Land de Bavière, c'est du bleu et du blanc, mais le Bayern a toujours été historiquement joué en rouge.
Enfin, blanc et rouge.
Rouge et blanc.
Ouais.
Et donc, ça paraît logique qu'un club comme ça, qui veut absolument s'appuyer sur ses valeurs, sur ses traditions, sur l'ancienneté de ces symboles-là, reviennent aussi à cette couleur.
Ok. Et ton avis tranché, il concède Gladbach, et toi tu fais de Mönchengladbach ton favori au titre cette année.
Favori au titre cette année, absolument.
Ils ont 4 points de retard sur Dortmund, ils sont deuxièmes.
En fait, c'est Fred avec son Atlético Madrid favori qui m'a inspiré, et j'ai réfléchi un peu aussi aux circonstances de cette saison. Alors, je suis pas en train de dire que Gladbach est au niveau de l'Atlético, attention, mais simplement, ce club de Mönchengladbach, historique en Bundesliga, qui n'a pas été titré depuis 1977 en Bundesliga et qui n'a pas gagné de trophée en Allemagne depuis 1995. C'était la Coupe d'Allemagne.
Je rappelle que c'était un gros club des années 70. Hein.
Ils ont gagné deux coupes de l'UEFA. Ouais.
Il y avait une tradition de jeu, des joueurs importants qu'on fréquentait.
Fox,
l'équipe nationale.
Heynckes.
Rainer Bonhoff.
Une culture.
Le plus élégant des élégants.
Un ADN.
Ils ont partagé les titres dans les années 70 avec le Bayern. 5 ou 6 de mémoire, 4 ou 5 de mémoire cette décennie-là. Et alors cette saison, la grosse différence avec Dortmund qui a 3 points d'avance sur Gladbach et avec Francfort qui est très très pétillant cette saison.
4 points d'avance, non ?
Ils sont à 30 et 26. 4, Pierre, tu as raison. La grosse différence avec Dortmund, c'est que Dortmund va utiliser une partie de son énergie naturellement pour la Ligue des Champions puisque ça va continuer pour eux après les fêtes. Francfort va se concentrer aussi en partie de fait sur la Ligue Europa parce que ça marche très bien pour eux et ils vont donc perdre une partie de leur énergie là-dedans. Pour moi, Mönchengladbach, qui n'a pas de compétition à jouer à côté, qui est éliminé de la Coupe, qui n'est pas en Coupe d'Europe cette saison, qui bénéficie d'une ligne d'attaque super intéressante avec Lars Stindl, avec Plea, avec Thorgan Hazard, qui fait la une des journaux en ce moment, avec Hoffmann, ancien de Dortmund, et avec des joueurs aussi comme le Brésilien Raphaël, a toutes les armes en championnat pour continuer sur sa lancée cette saison, nous surprendre, devancer éventuellement Dortmund, devancer le Bayern, devancer Francfort, devancer le RB Leipzig. Je mets une pierre ce soir et une pièce aussi sur ce club.
Ok,
une pierre. Ça risque pas grand chose.
Non, mais un petit, comme
le petit poussière dans la
pièce. Allez, une pièce. Ok, une pièce.
Das Kador cette semaine. T'en as même deux d'ailleurs. Il n'y aura pas de Das Bidon.
Il n'y aura pas de Bidon cette semaine.
Das Bidon 9.
Le Kador, alors c'est une belle petite histoire. C'est un joueur qui s'appelle Skripski que les rédacteurs en Allemagne, les journalistes rédacteurs en Allemagne s'arrachent les cheveux pour écrire son nom correctement, qui est arrivé de l'Union Berlin à Schalke cet été pour 3,5 millions d'euros, a marqué son premier doublé pour sa première titularisation ce week-end avec Schalke. Ce joueur qui donc était à l'Union Berlin précédemment en deuxième division était depuis sa plus tendre enfance un fan de Schalke, dormait dans des draps aux couleurs de Schalke, partait à l'école avec son cartable aux couleurs de Schalke, est un fan de la première heure de Schalke, a été recruté cet été avec Schalke et marque un doublé pour sa première titularisation. Super belle histoire. Je suis pas sûr que ça soit le cador de l'année, mais en tout cas c'est le cador du week-end. Il a marqué.
T'en as même un deuxième, puisque t'as pas de bidon, t'as choisi un deuxième cador.
Jérôme Roussillon, on a eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques semaines, ancien de Montpellier, défenseur du VfL Wolfsburg, qui marque le but décisif.
Il s'amuse en Bundesliga.
Roussillon, ouais, je crois vraiment qu'il se fait plaisir.
Léa aussi, non?
Player aussi, pas mal.
Ça, non, c'est marrant.
Allaire, 9 buts. Roussillon, donc, défenseur latéral de Wolfsburg, qui marque le but décisif contre RB Leipzig pour la victoire 1-0 de Wolfsburg ce week-end. Offensif, belle histoire. C'est l'un des nombreux joueurs français qui s'adaptent merveilleusement dans ce championnat offensif et festif.
Tu viens de le teaser il y a quelques instants. Dans quelques instants, l'avis tranché de Fred Hermel, qui considère l'Atlético. Fred, qui pense que l'Atlético peut faire le même coup qu'en 2014. Petit message de Del Grego sur le hashtag RMC Live. Il y a moyen de télécharger le jingle de l'Orto. Ça va devenir mon répondeur téléphonique. C'est magique. C'est cadeau. Del Grego.
Il y en aura d'autres.
Juste avant de partir en pause, c'est pour toi.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré qu'il y a eu une vague, si je puis dire.
On dirait les journalistes des années 80. Je suis bluffé.
L'after revient dans quelques instants. C'est magique. Toujours accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et de nos drôles de dames. Voilà, on était en Allemagne il y a quelques instants. On file tout de suite en Espagne avec Fred Hermel.
Le but de la Finlande ! Le but de la Finlande ! Quelle surprise !
C'est quoi, du bon Fred Hermel, ça. Extraordinaire.
Contre l'Espagne, donc.
Et quoi ?
Oui, mais en fait, c'était quand la France et l'Espagne étaient dans le même groupe de qualification.
Ah oui.
Et que la Finlande avait égalisé en Espagne et que la France dépendait d'elle-même pour passer devant l'Espagne, et on avait perdu contre les Espagnols à domicile. Vous vous souvenez, je sais plus, c'était quand ça, c'était
Ah ouais, ça fait quelques années.
C'est pas pour le mondial ou pour un mondial.
C'est la Coupe du Monde 2014.
Ouais, 2014.
Ouais, la qualification du Monde 2014, ouais, exactement. Ouais.
Choc de 13e journée de Liga ce week-end, un partout entre l'Atlético et le Barça. Et ton avis tranché, il porte sur l'Atlético. L'Atlético qui est à 2 points du leader qui est Séville, d'ailleurs, à l'issue de cette 13e journée. L'Atlético qui va affronter Monaco en Ligue des Champions cette semaine peut refaire le coup de 2014, c'est-à-dire finaliste de Ligue des Champions cette année-là, et surtout champion d'Espagne, Fredo.
Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai vécu un moment très intéressant au Wanda Metropolitano samedi soir. Alors j'ai eu une petite discussion avec du gars qui n'était pas d'accord avec moi, qui s'était fait chier lui devant ce match. Moi je peux vous affirmer que moi j'ai beaucoup aimé ce match, qui était de bon. Alors c'était pas un match brillantissime, débridé, mais on avait deux équipes qui savaient exactement à quoi elles jouaient. Et j'ai trouvé l'Atlético, même si ce but d'Ousmane Dembélé à la 90e pour le Barça a empêché l'Atlético de gagner. J'ai vu une équipe hyper solide qui sait vraiment ce qu'elle veut. Puis je me suis mis à réfléchir un petit peu en disant voilà.
Non mais Fred, deux secondes. Moi, franchement, je vous ai pas entendu. Mais je trouve, alors là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que les mecs en viennent à dire qu'ils se sont fait chier devant ce match.
Moi, j'ai non, pas mais compris parce que j'adorais.
Tu sais en fait d'où ça vient ça? C'est que les mecs sont prennent tellement de claques dans la gueule avec la Ligue 1 qui est en dessous de tout et tellement à chier, que si quand ils mettent un match, une grosse affiche, hein, parce que c'était une énorme affiche Atlético-Barça, s'il n'y a pas 40 buts dans le match et une action toutes les 30 secondes, de toute façon ils vont se chercher uniquement pour dire après, oh bah et donc c'est pas mieux ailleurs, hein, heureusement dans notre Ligue 1 c'est pas si mauvais. Hein.
Même si du gars a dit qu'il s'est fait chier, il a pas défendu la Ligue 1 pour autant.
Là, ouais, faut
non,
dire
non, non,
ceci
non,
dit, ouais, exactement.
Non,
mais on peut juste être mesuré, dire
oui, alors sois-le alors.
J'accusais les autres, mais moi dire que devant ce match-là, c'est en Liga, on a déjà vu mieux, sans problème. Mais dire que tu t'emmerdes dans un stade où il y avait une ambiance de dingue, où t'as autant de bons joueurs, où malgré tout t'avais une vraie tension, même si, je le reconnais, en qualité, on a vu mieux, et par rapport à ces deux équipes et tout, mais il n'empêche.
Non, mais tactiquement, c'était splendide.
Il n'empêche que même si ça se débloque sur la fin, ne serait-ce que pour les dernières 20 minutes, la tension qu'il y avait, l'explosion sur le but de la tronche là, de Diego Costa, non. Je suis désolé, quoi. Qu'on vienne pas me dire qu'on se fait chier devant Atlético Barça. Merde, quoi.
Non, on est d'accord. Merde. On est d'accord, Fred, qu'on a kiffé ce match-là parce que tactiquement, c'était deux équipes qui se répondaient coup pour coup et que du coup, ça donne un match, un peu fermé, mais avec beaucoup de duels, avec beaucoup d'intensité.
Voilà.
C'était un vrai combat, on est d'accord.
C'est ça, c'est un vrai combat.
Voilà. Bah moi, je vous dis que par quoi.
En plus, au stade,
je finis, Daniel, juste parce que.
Oui, pardon.
Fred, excuse-moi. Je vais pas comparer l'Atlético et le Barça avec des équipes françaises. C'est pas possible. On est bien d'accord. Mais juste quand t'as ce type de match-là, toute proportion gardée en Ligue 1, on dit que c'est un match fermé et de merde. Voilà. C'est là aussi la
sauf
différence.
Que c'est pas pareil.
Et si j'en reviens
sauf
à Dugas,
malgré tout, c'est pas la même chose.
Dugas, c'est peut-être le premier ici qu'on ne peut pas targuer de défendre la Ligue 1 très souvent.
Non, c'est pour ça, on l'a dit. Mais bref,
donc Fredo, honnêtement,
vas-y. Alors pourquoi tu penses que l'Atlético pour faire le coup alors?
Non, je termine simplement sur le match, c'est que au stade, quand je voyais l'organisation tactique des deux équipes, c'était vraiment du très très haut niveau.
Bien sûr.
C'est-à-dire que chacun savait ce qu'il devait faire et quand t'as des équipes aussi fortes avec aussi de bons joueurs et qui en plus respectent les consignes de l'entraîneur.
Et ne font pas d'erreur.
C'est évident qu'aucun des deux ne voulait perdre. Et donc, il n'y avait pas d'erreur. Et c'est ça où c'est. Il y a eu une seule erreur, finalement, de l'Atlético. C'est une question de placement sur le but de Dembélé. Et là, il y a eu but tout de suite, quoi.
Ah ouais.
Et c'est ça que.
D'ailleurs, étonnant qu'en ayant ouvert le score si tard dans le match, l'Atlético, qu'on sait capable d'être super solide, il se soit fait reprendre quand même.
Mais ils ont été super solides. Ouais, c'est une erreur.
Au moment où Simeone était en train d'enflammer le stade.
Vrai, surtout pour la première fois.
Tout le monde.
Pour la première fois, il allait battre le Real en Ligue 1. Il n'a jamais battu le Real en Ligue 1.
Le Barça. C'est le Barça. Tu sais, le maillot rayé.
Ouais, t'es chiant, toi, t'es comme Hermel, tu te toujours.
Les blancs, c'est le Real.
C'est exactement ça. Bah, tiens, parlons un peu du Real où t'as fini avec l'Atlético.
Attends, mon avis tranché, j'ai pas fini.
Le retour, mon Fredo, mais t'as.
Non. Alors, pourquoi, non, mais je veux dire, le tranché, c'est quand même, pourquoi l'Atlético peut refaire le coup? Simplement, j'ai comparé dans ma petite tête l'équipe de 2014 et l'équipe d'aujourd'hui. En fait, je pense que le gardien, sincèrement, Courtois, oui, était bien à l'époque, mais au Black, c'est même plus fort.
Ah ouais.
La défense, c'est toujours aussi bon. Le milieu de terrain, c'est toujours aussi bien. Il y a plus Gabi, mais vous avez Rodri, là, qui est encore plus technique. Devant, Diego Costa est revenu et c'est le mec qui est là pour faire chier le monde, pour se battre avec tout le monde, pour mettre des coups. Le type compétitif à mort qui est hyper important pour les matchs. Mais il y a un supplément en plus de qualité qui s'appelle Griezmann. C'est-à-dire le grand joueur qui est capable sur un éclair de génie de faire changer le destin d'un match, quoi. Donc moi, je pense que cette Atlético-là, sur le papier, est une équipe qui est plus forte que celle de 2014 qui avait remporté la Liga. Et puis là, on est quand même on est à plus d'un tiers de la Liga. Aujourd'hui, on peut se permettre de tirer quelques petites conclusions. Donc, l'Atlético cette année, oui, ça marche. Et comme je vous l'ai expliqué plein de fois, le principal concurrent pour la victoire en Liga, qui est le Barça, cette saison mise à fond sur la Ligue des Champions. Et donc, à un moment, ça risque de peser parce que on a vu par moment Messi ne pas jouer certains matchs, notamment match contre Bilbao à domicile, parce que trois jours après, il y avait Tottenham ou Wembley. Donc, le choix, il est fait dans la tête des Barcelonais. Et voilà pourquoi je pense que l'Atlético peut faire refaire le coup 2014 d'être champion d'Espagne. Et pourquoi pas.
Tu veux dire que le Real ne va pas remonter?
Non.
Alors, le Real qui a perdu 3-0 ce week-end à Eibar, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Daniel a utilisé d'ailleurs ce match pour faire un avis tranché en tout début d'after. Qu'est-ce qui s'est passé, Fredo? On rappelle, c'est la première défaite hein, sous l'ère Solari. On avait l'impression de revoir le Real de Lopetegui finalement, il y a quelques semaines.
Ça. C'est exactement ça. Tu l'as résumé. C'était exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire une défense totalement à la rue, avec Varane, Ramos, Marcelo qui défend pas. Enfin, c'était pathétique défensivement. Au milieu de terrain, Kroos qui n'est pas bien depuis des mois, David. Je sais pas ce qui lui arrive, mais ça fait longtemps. Même déjà en fin de saison dernière, il n'était pas.
Je sais pas. On commence à en parler en Allemagne d'ailleurs. Ça commence à être un peu un thème d'articles, notamment dans la presse écrite. Oui, je suis d'accord, Fred.
Ouais. Ça fait un moment qu'il n'est pas bien. Modric va beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui était usé après le mondial, on l'a évoqué. Et là, ça va un peu mieux. Mais j'en profite pour faire mon bidon, c'est Gareth Bale, quoi. C'est terrible, quoi. Mais Gareth Bale, c'est être plus qu'inexistant, quoi. C'est être coupable de par son manque d'intérêt pour le match. On avait l'impression qu'il se faisait chier sur le terrain.
Mais pourquoi il en est arrivé là? Parce que pour moi, c'est un vrai bon joueur, quoi. Mais
ben oui, c'est un super joueur. Mais c'est-à-dire que il jouait à droite. Alors t'imagines à droite, il y avait Odriozola, le latéral derrière lui. Il était à droite, mais c'est-à-dire le repli défensif pendant le match, c'est zéro. C'est-à-dire qu'à Eibar, un petit stade, etc., où les mecs attaquaient avec envie, etc., Bale n'a rien fait défensivement. C'est-à-dire que, en Liga, tu dois jouer en équipe, c'était clair. Il y avait un type avant qui avait le droit de pas défendre, il s'appelait Cristiano Ronaldo. Mais parce qu'il mettait 50 à 60 buts par saison. là, Bates s'en fout. Et puis offensivement, il a deux trois petits éclairs, mais rien. Mais c'est hallucinant cette apathie.
Est-ce que tu crois que Ramos est atteint par l'histoire qui tourne autour de lui ?
Alors parlons-en. Non. Voilà, les révélations de Football League, s'il aurait été contrôlé positif à un corticoïde après la finale de Champions 2017, il aurait été blanchi après enquête suite à une erreur administrative du médecin madrilène. L'UEFA réfute les accusations de dissimulation de dopage. Hein.
Oui, bah oui, lui a fait un communiqué, Laurel a fait un communiqué. Non, il n'est pas. En tout cas, je ne sais pas s'il est inquiet à cause de ça ou pas, mais il était déjà pas bon avant la révélation de cette affaire, donc il n'est pas bon depuis le début de la saison.
Le repli défensif du Real sur le premier but, c'est terrible.
Non, mais en plus c'est un truc qui. Alors attends, j'en profite, Pierre. Il y a un truc moi que je ne supporte pas, c'est les corners à la rémoise. Les corners en deux temps.
Ben ouais,
c'est-à-dire que le Real se fait baiser là-dessus dans un petit stade comme ça, quand tu sais que le contre il peut se faire hyper rapidement. Pourtant ils ont des mecs comme Ramos, comme Varane, comme Bale qui très bon de la tête. Ils ont joué en deux temps. L'action n'a rien donné et ils se sont fait avoir sur le contre et c'était terrible.
Il y a qu'une équipe qui les jouait. Très très bien, c'est le Barça, bien sûr, parce que t'avais tous les joueurs après pour faire ce qu'il fallait dans le petit espace.
On rappelle que demain il y a Roma Real quand même. On en dit quoi du coup en Italie du Real?
Que le Real en crise, mais la Rome va pire. Donc
la Roma ça va pas fort. Hein.
Bah, alors. C'est un match entre deux malades, on peut dire européennes. Mais c'est vrai que la Roma.
Ce sera donc un match de malades.
Ça va être un match de malades, mais comme la Roma a besoin d'un point pour se qualifier.
C'est pour dire la vague, tu sais.
Mais c'est ça.
Ce qui est quand même un truc, c'est que un nul suffit au Real pour quasiment être sûr d'être premier du groupe.
Ouais. Un nul suffit au Real pour être premier, un nul suffit à la Roma pour se qualifier. À 18h, il y a CSKA qui joue. Donc tu peux même avoir déjà la qualification si c'est ce qu'a perd à domicile ou fait match nul.
Ah ouais, deux journées de la fin.
Ouais, ils peuvent se faire un petit nul peinard et aller manger derrière.
Ouais, ça c'est. Ton cador de la semaine, mon Fredo.
Bah, c'est le leader de la Liga. Hein. Parce que j'insiste, on est au-delà de la du tiers de la Liga. Que Séville soit seul leader de ce championnat avec le cador, c'est-à-dire un type qui a réussi. On a déjà évoqué son nom, mais j'insiste sur lui, Pablo Machin, entraîneur inconnu il y a encore quelques années, qui a fait des belles choses à Gérone et qui a réussi à imposer dans une équipe beaucoup plus importante, puisque Séville, c'est l'un des grands clubs de cette Espagne, imposer son style de jeu très très dogmatique, mais qui a un sens de la possession, qui a un sens de.
Ça joue pas tous derrière.
Non, je trouve ça beau. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a un vrai équilibre dans cette équipe. Ça a été très difficile au début parce que Séville perdait beaucoup de points. Il a fallu le temps que les joueurs s'adaptent à leur nouvel entraîneur et que l'entraîneur s'adapte à ses nouveaux joueurs. Et là, ça tourne comme une horloge, quoi. Donc, leader de la Liga et j'insiste, aussi un candidat à la victoire finale pour une raison très simple, c'est que Séville, des quatre favoris, ne joue pas la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa, ce qui quand même est pas du tout la même débauche d'énergie.
Allez, on file en Italie dans quelques minutes avec Simone Rovira et son avis tranché qui concerne un certain Zlatan.
C'est un truc important. Vous savez comment on dit la vague en espagnol?
La onda.
La ola.
Ah non, merde. La onda, ça veut dire. Ah, c'est une onde.
Ouais. L'onde, oui. Non, la onda, c'est une vague, mais c'est en italien.
Et en portugais aussi.
On est cousin, frère.
Si, c'est
mes frères, cousin.
Il primo.
La vague, qui est un excellent film sur la montée du nazisme, comme tu le sais. Oui.
Une sorte de répétition historique finalement, n'est-ce pas? L'after se poursuit juste après ça. Accompagné de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames Julien Laurence, Fred Hermel, Simone Rovira, David Lortolari. Tiens Simone, c'est à toi.
Là arrive Naples et Lazio, ils se rendent compte que non, hein, ça fonctionne pas, j'ai démission.
Il reviendra après,
non, non, je démissionne. Je démissionne. Il va dans les vestiaires, le joueur, il dit bah écoutez, je
démission.
Pas,
j'ai démission.
Semaine dernière ou quoi?
Rappelle-le ça ou pas?
Semaine dernière ou il y a deux semaines?
Comment tu conjugues le verbe démissionner?
Je
démission.
Non, t'as pas retenu la leçon.
Putain, le fait exprès.
Je démissionne.
Voilà.
Et si vous voulez, l'ancien entraîneur français du Real qui est champion du monde, Zinedine
Zizou.
Oui.
Zidane.
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 Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane. Zidane.
Zidane. Zidane.
Zidane. Zidane. C'est mignon.
Mais on
c'est
adore.
Mignon, on adore. Tiens, un petit mot avant ton avis tranché qui concerne donc Zlatan. Alors, deux tristes nouvelles qui concernent l'état de santé de Mazzarri de Viali, mon Simonet.
Oui, bah, Mazzarri, heureusement, va mieux. Il a eu un malaise ce week-end qui l'a empêché d'être sur les bancs à, avec les Torino ce soir à Cagliari. C'est pas la première fois. Il avait déjà eu un épisode comme ça quand il était à Naples. C'est du stress qui provoque des malaises, il doit se gérer un peu mieux, être plus tranquille. Et Gianluca Vialli qui a avoué aujourd'hui dans une longue entretien au Corriere della Sera d'avoir gagné un premier combat face à un cancer, mais il a dit les matchs c'est pas encore terminé. Donc on le souhaite tout le mieux à Gianluca Vialli.
Elle est très touchante à cette interview. Hein. Il explique qu'il avait honte, etc.
Il avait honte qu'il mettait une maillot en dessous de la chemise pour cacher son état de santé. Oui, c'était très touchant. Et j'ai vu que même en Angleterre, Chelsea a fait des tweets. C'est-à-dire beaucoup de clubs ont fait
Quand vous avez vu ça, vous avez pensé juste à la peine que la nouvelle vous faisait. Vous n'avez pensé à rien d'autre.
Bah, je pensais que c'était intéressant que lui raconte ce qu'il passe parce que quand même il y a toujours une façon de vivre
Et vous n'avez pensé à rien d'autre.
À quelqu'un d'autre tu veux dire?
Non, vous n'avez pensé à rien d'autre quand vous avez entendu que Vialli avait un cancer à son âge. À rien d'autre vous n'avez pensé.
Bah, tu penses au dopage toi?
Vialli à la Juve, vous vous souvenez ou pas?
Ouais.
La transformation physique, ouais. Les affaires qui sont sorties à l'époque, le procès qui a commencé à cette époque-là. Moi je vous ai juste dit, vous n'avez pensé à rien d'autre. Moi j'y ai pensé, si vous n'y avez pas pensé.
Non, moi je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit.
Honnêtement, j'y ai pas pensé.
Moi j'y ai pensé.
Dans cet entretien, il parlait même de cette année-là et il racontait un peu que
c'était quand même une période où en Italie. Après, tu sais, c'est comme quand tu clopes un paquet ou deux paquets, les effets ne sont pas tout le temps les mêmes sur les gens. Il y a eu des affaires en Italie.
Il y a eu des affaires en Italie.
Mais moi, je ne dis pas que c'est à cause de vous avez pensé à ça? Vialli, c'était quand même marquant parce qu'il y avait les photos qui sortaient de sa transformation physique. Il est dans une période trouble de la Juve et où ont évolué beaucoup de joueurs français aussi. Voilà, je dis que j'y ai pensé. Je dis pas qu'il y a un lien.
Non,
voilà,
j'ai pas pensé à ça.
C'est tout. Comme on était dans un week-end où un joueur espagnol a été cité avec un préparateur physique bien connu. Voilà, c'est tout. Je dis qu'on peut penser à ça. J'ai pas de preuves, je veux dire. Hein.
Je comprends ton chose. Et je te dis que c'était un des sujets qui était touché dans un train. C'était un train.
Et en Italie, personne n'a évoqué ça parce qu'il y a quand même des antécédents. Tous ceux qui avaient toute la période où certains joueurs ont eu la maladie de Charcot.
Il y a eu des périodes liées à ça. Il y a eu des cyclistes à la Fiorentina des années 70, si je ne me trompe pas.
Il y a eu quand même.
Sait qu'il y a certaines maladies qui ont touché plus certains joueurs de football que d'autres catégories, on peut dire, des travailleurs. L'ASLA, c'est vrai, mais c'est pas un débat qui est sorti aujourd'hui en Italie.
Parlons un peu de foot également. Le retour de Zlatan fait beaucoup parler en Italie du côté de Milan. Alors cette semaine, Zlatan a déclaré à Vanity Fair un retour. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Nous verrons. Il a ouvert la porte à un éventuel retour, Zlatan. Hier, Gattuso, l'entraîneur de Milan, a déclaré « Nous avons besoin de joueurs comme lui. Il ne s'est pas proposé. Peut-être qu'il a été sondé. » Voilà, il joue un petit peu au chat et à la souris les deux, mais on sent qu'il se passe un truc. Et toi, tu penses que c'est une bonne idée pour Milan, le retour de Zlatan?
Je pense que c'est un joueur qui ferait énormément de bien au Milan pour plusieurs raisons, sportives, mais pas seulement sportives. Sur les sportives, bien sûr, on peut se poser des questions sur son âge, sur les retours dans un championnat plus compliqué que la MLS, où il est quand même terminé la saison avec des très bons stats, 22 buts en 27 matchs. C'est quand même pas mal. Je trouve que Ibrahimovic aujourd'hui a cette personnalité, cet esprit des combats qui manque à Milan, qui manque dans les vestiaires, qui manque sur le terrain, même si à son âge, je pense qu'il ne pourrait pas jouer titulaire tous les matchs. Il y a aussi un certain des types de jeux qui est mis en place par Gattuso, qui connaît bien Zlatan, qui a gagné avec lui les derniers titres de Milan. Au centre de ces jeux, il y a Gonzalo Higuaín, donc il faut voir comment trouver une situation tactique pour mettre les deux en place. Mais je trouve qu'à un niveau vraiment de charisme, de responsabilité aussi, que certains joueurs doivent avoir pour le maillot du Milan, pour l'histoire de Milan, pour ce que Milan a gagné, ça ferait vraiment du bien en Milan de trouver un joueur comme Ibrahimovic, parce que tu as déjà des joueurs symboles à plusieurs postes. Je parle des joueurs, anciens joueurs symboles à plusieurs postes. Leonardo, Maldini, Gattuso sur le banc de touche. Et retrouver un Zlatan sur le terrain, je pense que ça pourrait être la dernière pièce pour 6 mois. On parle de 6 mois avec peut-être une option pour l'année suivante. Mais comme Milan doit lutter pour la Ligue des Champions, je crois que Zlatan Ibrahimovic, sur les 6 mois qui vont venir, peut être les joueurs qui, dans certains matchs, t'ai fait la différence et peut aider Milan à lutter pour la 4e place, qui serait l'objectif plus simple, plus important de ces dernières saisons, c'est-à-dire retrouver la Ligue des Champions.
Ouais, mais tu as prononcé son nom. Mais c'est vrai que si tu fais venir Zlatan et Higuain, alors c'est lui aujourd'hui le meilleur buteur de Milan, enfin le buteur d'ailleurs de Milan.
C'est les meilleurs joueurs, c'est les joueurs qui coûtent très cher. On rappelle qu'il y a eu un prêt avec option d'achat derrière, 18 millions de prêts. L'opération Higuain, seulement cette saison, entre prêt et salaire, ça coûte 35 millions de Milan. Et c'est une opération qui, quand même, ça marche. Il marque des buts. Il y a eu quand même, je pense que ça va rester un peu dans la tête, cette erreur face à la Juve. C'est le moment où il a voulu prendre sa responsabilité, prendre les choses en main, dire c'est moi l'homme de la situation.
Pour tirer le penalty.
Il n'a pas été. Voilà. Et après les cartons rouges, il fait du bien, Higuain. C'est sûrement un joueur qui fait beaucoup de bien au Milan cette saison, mais il n'a pas la personnalité, il n'est pas cette leader charismatique dans les vestiaires et sur le terrain que je pense aujourd'hui ferait du bien au Milan et qui sûrement manque à Milan. Après, tu peux poser plein de questions. L'avenir de Cutrone, d'un joueur si jeune, si important, qui marque plein de buts, qui est le remplaçant numéro 1 d'Higuain. Et si tu apprends Zlatan, tu vas le mettre encore à côté.
Puisque tu parles de Zlatan, Julien, il était à United avant de partir aux États-Unis. Je sais qu'on en parle pas mal également de la possibilité d'un retour de Zlatan en Europe, Julien.
Ouais, on en parle beaucoup. Hein. La BBC a fait la BBC a fait une très grande interview de lui. Ils sont allés le voir à Los Angeles quand il a sorti son livre, justement, et il en parlait un petit peu. À l'époque, c'était pareil. C'était Mino Raiola en avait parlé aussi. Et Zlatan, je pense, n'est pas du tout contre un retour en Europe pour une petite pige, comme souvent les joueurs en MLS l'ont fait. David Beckham, Landon Donovan. Il y a eu plein de très grands joueurs qui étaient en MLS qui sont venus pour passer la trêve de MLS en Europe. Je pense que ça lui plairait.
Revenus, on
ne
peut pas dire qu'ils aient tout cassé non plus. Hein.
Thierry Henry.
Non, même si Donovan a été pas mal avec Everton. Hein. Landon Donovan, qui est pas Ibra et c'est pas le Milan non plus, mais avait été pas mal quand il était revenu en Angleterre. Voilà, il a 37 ans. Pour moi, qui regarde la MLS, il a fait des matchs exceptionnels à ce niveau-là, comme Wayne Rooney par exemple. Ça ne veut pas forcément dire que s'il revenait en Europe, il casserait tout. Mais je suis d'accord avec Simonet sur l'état d'esprit surtout qu'il peut apporter au Milan.
Après, en Italie, il y a eu déjà des joueurs au-delà de 35 ans qui ont fait des belles saisons. Luca Toni a été meilleur buteur avec 22 buts en 38 matchs. Il avait 38 ans. Tadel Piero et Totti qui ont fini leur carrière. C'était des histoires différentes, bien sûr.
Di Natale, me dit Arthur.
Di Natale, bien sûr. Il y a plein de joueurs qui peuvent, en gérant bien leur force, leur saison, leur corps, et leur mental n'ont pas besoin, certains joueurs, ces joueurs-là. Mais de finir une carrière, une saison bien.
Un mot sur le Napoli aussi, Simone, qui a fait 0-0 face au Chievo ce week-end. Le Napoli qui est deuxième, mais qui compte 8 points de retard sur la Juve. Alors, je regardais un peu la presse ce matin en Italie. Alors, ils reprennent tous le chiffre 8 en disant, en gros, le championnat, c'est bon, il est plié. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Napoli non plus avant ce match de Ligue des Champions.
C'est pas une bonne nouvelle parce que les risques, c'est de trouver quand même un type de jeu similaire, c'est-à-dire l'étoile rouge comme les Chievo, un bloc très très bas, tout derrière.
Il a beaucoup fait tourner là.
Alors, Ancelotti a fait beaucoup tourner, pas énormément, mais quand même au milieu de terrain, il a laissé au repos Alan, Fabien Ruiz, il a fait reposer Mario Rui en défense, donc c'était pas l'équipe A du Napoli, mais généralement.
L'équipe Fagnon.
Ouais, ça faisait longtemps.
C'était généralement ça faisait bien les turnovers en Naples. Il y avait toujours des joueurs qui répondaient bien, qui étaient présents sur le terrain. Là, c'était déjà un match un peu compliqué, pas dans les meilleures conditions, beaucoup de pluie, terrain très difficile. Et c'est pas la première fois, malheureusement pour Ancelotti, que un match compliqué face à une équipe très défensive, il n'arrive pas à marquer le but. On l'a déjà dit. Face à l'étoile rouge, au match aller, et pourquoi pas, attention, faut faire vraiment attention mercredi, parce que l'étoile rouge fera un match similaire, donc ça risque d'être un très mauvais, une grosse piège pour Napoli. Et en parlant de Napoli, il y a eu certains...
L'étoile rouge à San Paolo, ils vont les ouvrir.
Ouais. Si, ouais. Après, il faut les faire. Tout le monde pensait que Liverpool là-bas allait faire résultat. Donc, attention.
Oui, non, mais attends, c'est
aujourd'hui,
pas pareil. Le match Liverpool, je l'ai vu, c'est un peu plus compliqué.
Oui, mais les matchs de l'aller,
qu'ils allaient les ouvrir.
Le match de l'aller, quand même, t'as montré que avec une équipe qui défend tout le temps, ne trouve pas des parfois tu n'arrives pas à trouver des espaces. La chose que je signale, et attention parce que je pense que c'est ça va pas arriver plusieurs fois dans la saison, mais dans un des plus importants quotidiens, on commençait un peu à regretter Sarri à Napoli. C'est dans l'éditorial sur la République. Elle disait, oui, mais avec Sarri, c'était autre chose. Donc, c'est-à-dire, il y avait des matchs que tu gagnais pas, mais il y avait
clair, là, parce qu'ils étaient super contents d'Ancelotti, là.
Mais je t'ai dit, c'est une critique, la première que je vois, on peut dire, de regret. Ah,
comme à Chelsea, ils sont en train de moins kiffer Sarri, ils ont qu'à changer.
Ça ferait du bien à tout le monde. Non, mais c'est vraiment, je pense que c'est le moment où quelqu'un doit lever sa voix pour se faire entendre, parce que sinon, ils vont tous dans la même direction.
Il cadoro, il bidone de la semaine.
Alors, j'ai un cadore qui est Gervinho. Et avec lui, je veux.
Il a encore marqué, dis donc.
Oui, je veux rendre hommage à Parme et à une vision, on peut dire, années 80, 90 de du foot du Parme. Pas pour les résultats, bien sûr, parce que c'est en 6e, donc en zone Europa, mais c'est vraiment un football à l'ancienne, italienne, vieille école. Pour vous donner quelques stats, Parme est 18e à niveau des tirs faits vers le but adversaire. 14e dans les classements au niveau des buts marqués, 18e pour les centres et pour les corners. C'est-à-dire, c'est une équipe qui attaque très peu, qui ne veut pas avoir les ballons et qui va très vite en contre avec Gervinho. Ça utilise les forces.
À part Parme, hein, Pierre. regarde la moyenne de buts.
Je l'ai réveillé. Il griffonne plus.
Et malgré tout ça, Parme est 6e.
Oui, c'est une équipe qui utilise ses forces, et sa force principale, c'est Gervinho et ses contres, parce que si tu vois les buts qu'il met Gervinho cette saison, sont pratiquement tous des contres où il part toute seule et il marque des buts extraordinaires. Donc, attention, même pour l'affaire Zlatan, on pensait que Gervinho était fini comme joueur quand il est parti en Chine. Il revient, c'est sûr, il a 31 ans seulement, c'est pas 37, mais quand même parfois tu te retrouves que des joueurs on oublie parce qu'ils vont jouer dans d'autres championnats et c'est encore plutôt bien.
T'as 5 secondes, ton bidon.
Mon bidon, c'est Simone Inzaghi, très simplement, pas pour le match de Lazio, parce qu'il s'est fait exclure en tant qu'entraîneur. Il fait une scène très mauvaise, il refuse de sortir. Donc, il faut les convaincre à sortir. Si les entraîneurs sont les premiers, qui ne donnent pas les bons messages.
Je veux dire, après qu'il a été expulsé.
Oui, il a été exclu de l'arbitre, il a dit tout
d'abord. Il a dit, je sors pas,
Je sors pas. Si les entraîneurs sont les premiers à donner des mauvais messages, on peut pas demander que les supporters nous suivent, qu'ils font des choses polies sur les tribunes et que les joueurs soient des exemples si les entraîneurs ne sont pas.
On peut dire que cette histoire a fait des vagues.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré qu'il y a eu une vague, si je puis dire.
Voilà. Il est tellement content. Je crois que celui-là, il est dans le top des jingles de l'after.
C'est horrible.
Ça mériterait un t-shirt. Ça mériterait un t-shirt, je pense, bientôt. Effectivement.
Ah ouais.
Merci Fred Hermel. Merci Julien Laurent.
T-shirt de la DDR.
Merci David Lortolari. Bravo pour la qualité de tes jingles. Merci beaucoup, mon cher Simone Rovera. Merci Pierre Ducro. Merci Daniel.
Merci,
et la minute portugaise.
Non, il y en a pas.
Je viens ici que
il y avait la Coupe du Portugal et tout, j'avais pas envie. On avait une grosse actualité européenne. Merci à toutes et à tous.
Ciao.